Alors avant d'écouter la conférence de ce soir, qui rappelons-la pour titre « L'Iliade et l'Odyssée », en fait à la lumière de la théosophie, nous allons faire une courte lecture extraite de « La clé de la théosophie » de Madame Blavatsky. « La religion sagesse ésotérique à travers les âges. Ni le Bouddha, ni Pythagore, ni Confucius, ni Orphée, ni Socrate, ni même Jésus n'ont rien laissé par écrit. Néanmoins, la plupart d'entre eux sont des personnages historiques et leurs doctrines sont toutes parvenues jusqu'à nous. Ce sont les disciples d'Ammonios, parmi lesquels se trouvaient Origène et Hérénius, qui ont écrit des traités et expliqué l'éthique de leur maître. Ces traités sont certainement aussi historiques, sinon plus, que les écrits des apôtres. De plus, ses élèves, Origène, Plotin et Longin, qui fut conseiller de la fameuse reine Zénobie, ont tous laissé par écrit de volumineux témoignages sur le système des philalètes, au moins dans la mesure où leur profession de foi était connue publiquement, car l'école avait, outre ses doctrines exotériques, des doctrines ésotériques. Comment ces dernières nous sont-elles parvenues, puisque vous avancez que ce qui s'appelle leur propre la religion sagesse était ésotérique, demande le questionneur. Eh bien, le Thésophe répond. La religion sagesse a toujours été une, et comme elle est le dernier mot de toute connaissance humaine possible, elle a été soigneusement préservée. Elle existait depuis de longs âges, avant les théosophes alexandrins. Elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours et elle survivra à toute autre religion et philosophie. Où a-t-elle été ainsi préservée et par qui? Dans le cercle des initiés de tous les pays, parmi les profonds chercheurs de la vérité, leurs disciples, et dans les parties du monde où de tels sujets ont toujours été appréciés par-dessus tout et approfondis, en Inde, en Asie centrale et en Perse. Pouvez-vous me donner des preuves de son ésotérisme? La meilleure preuve que vous puissiez en avoir se trouve dans le fait que dans l'Antiquité, tout culte religieux, ou plutôt philosophique, comprenait un enseignement ésotérique ou secret et un culte exotérique ou extérieur et public. De plus, c'est un fait bien connu que les mystères des anciens se divisaient dans toutes les nations en mystères majeurs, secrets, et en mystères mineurs, publics, comme par exemple dans les célèbres solennités appelées Eleusinies en Grèce. Depuis les hiérophantes de Samothrace ou d'Égypte et les brahmanes initiés de l'Inde antique jusqu'aux rabbins hébreux, tous, par crainte de profanation, tenaient secrètes leur véritable croyance. Nous allons maintenant écouter la conférence.
Amis, bonsoir. L'Iliade et l'Odyssée. D'abord, on va rejoindre ce qui a été dit, parce que ça a été écrit par Homère. C'est un mythe, une légende, une épopée, et là, Homère était-il un sage? On n'en sait rien, très certainement, mais enfin, ce n'était pas un initié au sens théosophique du terme. Néanmoins, si ce n'est pas lui qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, c'est une école de pensée qui est tout à fait à l'origine de toute la littérature grecque. Donc, on a là, avec ce poème, cette épopée, on a vraiment un récit qui est un récit mythique, partie imaginaire, partie réaliste, on va dire, concret, mais exotérique, puisqu'il n'y a pas d'enseignement apparent, évident, d'ésotérisme. On verra à la fin de notre exposé qu'il y a beaucoup de leçons à tirer sur la sagesse grecque. Alors d'abord, si vous voulez, pour camper un peu ce chant, l'épopée de l'Iliade et l'Odyssée, pour camper cela, il faut imaginer une carte, bon, où ça se passe, quand ça se passe, comment, alors où, eh bien, vous voyez la Grèce, quelque part sur un tableau, alors à droite de la Grèce, c'est la Turquie avec sur la côte la ville de Troie, qui a été retrouvée, vous savez, par Schliemann en 1920, par là, donc la ville de Troie qui est en Turquie, mais qui était à l'époque une colonie grecque. Et puis, en Grèce, vous avez Athènes, qui a pris le nom de la déesse Athéna. Et puis, alors, au sud de Péloponnèse, et puis à gauche, c'est-à-dire à l'ouest de la Grèce, en direction de l'Italie, vous avez l'île d'Ithaque. L'île d'Ithaque, c'est une île importante parce que c'est là où habitait Ulysse. Son père, Laërce, était roi d'Ithaque. Et donc Ulysse, quand même plusieurs miles nautiques de la Grèce, était quand même ami des rois grecs Ménélas et Agamemnon, et Ulysse va rejoindre Agamemnon et Ménélas pour combattre contre les Troyens, parce que même si ce sont des Grecs, puisque Troie était une colonie grecque, eh bien, les Troyens avaient quand même transgressé les lois. On va voir lesquelles. Alors, quand est-ce que ça se passe? Quand? Eh bien, c'est apparemment au 12e, 13e siècle avant Jésus-Christ. C'est les premiers éléments historiques qu'on peut donner, mais en fait, rien de certain, absolument certain. Et la preuve, c'est que quand Homère a écrit Homère ou son école, on ne sait pas, ses disciples ont écrit l'Iliade et l'Odyssée, on était au 8e siècle. C'est le début de l'écriture grecque. Donc forcément, ce poème, comme on va le voir, c'était une série de chants. Là, nous avons une version française qui est assez complète. Il y a 24 chants dans l'Iliade et 24 aussi dans l'Odyssée. Donc ce sont des chants, et ces épopées, ces chants, ces poèmes, ces mythes étaient chantés dans les réunions, bon, auprès du roi, auprès des assemblées, chantés par des aèdes. Des aèdes, c'est-à-dire maintenant on dirait des troubadours. Le mode du chant était en vigueur parce que, comme en Inde du reste, parce que le chant et avec la poésie écrite en vers, la plupart du temps, permettait des répétitions, des rythmes qui permettaient de retenir plus facilement quand ce n'était pas écrit. Et comme la plupart de ces mythes en Inde comme en Grèce n'étaient pas écrits avant le 10e, 8e, 6e siècle avant Jésus-Christ, eh bien c'est par la voix orale, transmission orale, et donc les chants permettaient de mieux conserver les épisodes de ces mythes. Alors donc on a vu où est-ce qu'on est. On est en Grèce, face à Troie, on est au 12e siècle. Alors qui sont les héros de ce mythe? Eh bien, alors au départ, ce sont des dieux, il y a des dieux qui sont là, cités dans ces poèmes. Il y a bien sûr Jupiter, Zeus, les déesses, Rhea, Aphrodite, donc Rhea c'est la femme et la sœur de Jupiter, le Zeus Jupiter, Aphrodite, la déesse de l'amour, Athéna Minerve, Athéna en grec, Minerve en latin, qui est la déesse, alors à la fois de la sagesse et de la guerre. Athéna va intervenir souvent parce qu'elle va être invoquée pour aider les combattants. Alors, voilà pour ce qui est des dieux et des déesses. Alors, il y a des divinités nombreuses, divinités de l'enfer, Hadès, dieu des enfers en fait. Et puis, il y a Poséidon qui est le dieu des océans, très important. Et puis, bon, nombreux autres dieux, on pourra en citer quelques-uns au cours de l'exposé. Donc voilà, les personnages, les dieux, les déesses, les divinités. Il y a des nymphes, Calypso, Circé, des nymphes qui sont souvent sur des îles. Vous savez que la Grèce est entourée de myriades d'îles, et ces îles étaient habitées très souvent par des populations qui s'était identifié à un dieu, une déesse. Bref, dans le mythe de l'Odyssée, on verra que Ulysse, alors les héros, on a parlé des dieux, il faut parler maintenant des autres héros, qui sont les combattants de ce combat entre, encore une fois, les Grecs de la péninsule, et puis les Grecs de la Grèce, et les héros de la ville de Troie, qui est encore une fois en Turquie, à l'Est, bien sûr. Alors, au départ, il y avait bien sûr Achille, qui était un des combattants grecs, et puis Achille est très vite tué, et c'est Ulysse qui prend le relais, et dans l'Iliade, il est bien sûr question du début de la guerre de Troie, qui dure une dizaine d'années, mais cette guerre est finalement gagnée par les Grecs, et ensuite, et la fin de cette guerre est... C'est la victoire des Grecs grâce à Ulysse, et avec son fameux cheval de Troie. Ulysse, et puis ensuite, Ulysse, ayant gagné, doit rentrer chez lui, et l'Iliade est terminée, le livre est terminé, les 24 chants sont terminés. Et on passe à l'Odyssée, les 24 chants de l'Odyssée, qui décrivent le retour d'Ulysse jusqu'autour de la Grèce, mais il va se voir accosté de nombreuses fois dans différentes îles qui seront autant d'embûches, autant d'épreuves, autant de pièges contre son retour à Ithaque, puisque Ithaque étant, comme on l'a dit, à l'ouest de la Grèce. Et donc Ulysse veut retourner à Ithaque pour retrouver sa chère Pénélope, qui est donc la reine d'Ithaque, et retrouver les siens. Donc l'Odyssée, ça va être une longue histoire. La guerre de Troie, dans l'Iliade, c'est la fin de la guerre. Alors Achille était mort, il a été tué par un Troyen. Les Troyens et les Grecs se combattaient. Donc à Troie, il y avait Priam, le roi de Troie, et ses fils, Paris et Hector. Et Paris, un des fils de Priam, a finalement tué Achille, combattant héros grec dans l'Iliade. Et donc c'est Ulysse qui prend le rôle de chef des armées grecques. Alors Ulysse, c'est là où il se fait remarquer dans l'Iliade. Il a l'idée de construire un cheval, un immense cheval en bois, et il est rusé, cet Ulysse, parce qu'il fait courir le bruit que les Grecs s'avouent vaincus et qu'ils vont repartir en Grèce. Et les Troyens, qui ont des remparts énormes autour de la ville de Troie, vont prendre ces déclarations des Grecs pour argent comptant et vont croire qu'effectivement les Grecs rentrent chez eux parce qu'ils n'ont pas réussi à assiéger la ville de Troie. Et comme les Grecs, Ulysse a été assez astucieux pour offrir une offrande au roi de Troie, un énorme cheval en hommage aux Troyens qui auraient gagné, les Troyens vont croire que c'est une offrande et vont faire rentrer ce fameux cheval de Troie dans la ville de Troie. Et bien sûr, on le sait, ce cheval était un cheval creux avec des combattants très, très féroces, des combattants grecs très féroces qui vont une fois franchis les remparts de la ville de Troie, qui vont combattre férocement et tuer les Troyens qui sont là, au centre de la ville. Et donc, grâce à ce stratagème, Ulysse et ses soldats, qui étaient cachés dans le cheval de Troie, vont gagner. Et la ville de Troie, donc, est saccagée. Alors, Zeus n'est pas content, et puis Athéna non plus. Et donc, ils vont déclencher les foudres et une tempête qui va beaucoup gêner Ulysse dans son retour quand il quitte Troie. Alors, on va commencer maintenant l'Odyssée. C'est ce retour, cette tentative d'Ulysse pour revenir dans sa chère île d'Ithaque et pour retrouver sa Pénélope qui l'attend depuis déjà plus de 10 ans. Et Ulysse va mettre 10 ans à revenir dans son île. 10 ans où il va accoster différentes îles. Dans le poème, le chant est en fait au départ chanté par un aède, un troubadour, un chanteur. Et puis au bout de quelques épisodes, c'est finalement Ulysse qui écoutait le chant, qui va se révéler être le héros Ulysse et qui va continuer le chant, un récit de ses exploits, puisqu'il est en train de rentrer définitivement sur son île. Mais il n'est pas encore sur son île, donc c'est lui qui chante les exploits de son retour à Ithaque. Il y a une douzaine d'épisodes de ces embûches, de 12 embûches, 12 pièges. Ça fait penser aux 12 travaux d'Hercule, ça fait penser à pas mal d'épopées où il y a 12 épisodes. Rapidement, on va passer. Le premier épisode, c'est Zeus a envoyé sa foudre, enfin Jupiter Zeus n'était pas content, du massacre et du saccage de la ville de Troie. Et donc Zeus envoie une sorte de tempête avec l'aide de Poséidon. Et donc les navires d'Ulysse qui rentrent de leur conquête abordent l'île des Cicones. C'est une île où il y a des gens très, très méchants. Et donc Ulysse se fait renvoyer cruellement et les Cicones détruisent plusieurs de ses navires. Donc Ulysse quitte en catastrophe cette île des Cicones et il va ensuite aborder une autre île qui va être l'île des Phaéciens. On va les citer rapidement parce que c'est pas impressionnant. Mais quand même, dans l'Idéficon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les Grecs qui continuent à massacrer tous ceux qu'ils rencontrent, mais sauf un habitant de l'île d'Hésicon, qui est le prêtre Maron, un prêtre d'Apollon. Prêtre d'Apollon, Ulysse n'ose pas le massacrer, le tuer, et donc Apollon, en remerciement, donne à Ulysse et à ses soldats des jarres, fameux, qui va permettre beaucoup de choses à Ulysse. La deuxième île abordée, c'est l'île des Lotophages. Alors c'est une île plus ou moins mythique, mais la fleur de lotus, ou du loto, enfin comme on veut, est une plante qui endort. Et Ulysse, sage et prudent, n'en mange pas, bien que les Lotophages en mangent couramment. Et trois des marins d'Ulysse qui ont mangé de cette plante oublient tout. C'est l'amnésie totale, c'est un danger auquel Ulysse échappe, parce qu'il se tient en réserve et qu'il refuse de manger de cette plante qui est si délicieuse mais qui est si dangereuse en même temps. Donc les marins en question qui ont tout oublié sont attachés dans le navire et vont peut-être récupérer, mais on ne sait pas trop. Alors l'île suivante, c'est l'île des Cyclopes. Les Cyclopes, ce sont ces géants qui ont un seul œil au milieu du front, et là c'est l'histoire bien connue du Cyclope Polyphème, qui n'est pas là quand Ulysse aborde l'île, mais Ulysse, curieux comme d'habitude, assoiffé de connaissances, va avec 12 de ses soldats parcourir l'île pour rechercher comment ça se passe. Il y a plein de ressources, des fruits, des troupeaux, il y a des richesses partout, des victuailles partout disposées, et notamment dans une caverne qu'Ulysse va chercher à découvrir, mais cette caverne, c'est celle du géant Polyphème. Polyphème rentre le soir avec ses moutons et il est immense, il rentre et puis il ferme la caverne avec un rocher. Et donc les soldats d'Ulysse ne peuvent plus ressortir. Puis quand ils voient ce géant, au lieu de se faire des politesses, le géant exige d'avoir les noms de ses occupants de sa caverne. Et Polyphème demande les noms des géants et tout de suite il prend deux des soldats, il les tue en les jetant par terre et il les mange. C'est un géant, il a le droit, voilà, et c'est ce qu'il fait. Alors, quant à Ulysse, Ulysse répond vite qu'il s'appelle Outis. En grec, ça veut dire personne. Ulysse dit « Je suis personne ». Et fort de ce stratagème, le géant Polyphème dit « Bon, tu m'as dit ton nom, d'accord, toi je te mangerai en dernier ». Donc, Ulysse est sauf, mais il sait qu'il sera tué et dévoré par Polyphème peut-être la nuit prochaine. Bref, Polyphème ressort avec ses moutons. Mais il rentre le soir, et là, Ulysse avait apporté ses jarres de vin du prêtre d'Apollon Maron, et ses outres de vin très très précieux, et il réussit à enivrer Polyphème. Donc Polyphème, le cyclope, est enivré, est ivre, et là, Ulysse et ses compagnons se dépêchent de tailler un pieu géant, ils le durcissent au feu, et comme Ulysse est en train de cuver son vin et de dormir, il plante ce pieu dans l'œil unique de Polyphème, qui est donc aveuglé, qui hurle, qui crie bien sûr, et qui sort de sa caverne, le rocher qui bouchait l'entrée, et donc il hurle au secours. Ses amis géants comme lui arrivent et disent « Mais qui c'est qui t'a crevé l'œil? Qui c'est qui t'a attaqué ?» Et Polyphème répond « C'est personne ». Alors forcément, ses amis, ces personnes, bon ça va, on peut repartir chez nous. Voilà, ils repartent. Le stratagème a marché et Ulysse a trouvé la bonne astuce pour échapper à la vengeance des amis de Polyphème. Puisque ces personnes, c'est pas la peine non, qu'on s'occupe de toi, débrouille-toi tout seul. Voilà. Polyphème est donc tout seul et il va surveiller la sortie de ses moutons parce qu'il sait bien que les Grecs, les soldats d'Ulysse sont là autour. Il en reste encore 10 sur les 12 qui étaient venus explorer la caverne. 10 qui restent vivants, et Ulysse trouve l'astuce d'attacher ses 10 soldats sous le ventre des moutons. Pas dessus, parce que à cheval sur les moutons, Polyphème, même aveugle, aurait senti les soldats, et il les aurait trucidés, bien sûr, et dévorés aussi. Donc, astucieusement, Ulysse attache les soldats sous le ventre des moutons, 2 par 2, 3 par 3, et les soldats d'Ulysse peuvent sortir de la caverne. Et Ulysse sort également par ce stratagème, mais Polyphème, voyant qu'il est trompé, déclenche une fureur terrible et il abat carrément un pan de la montagne de l'île sur les bateaux qui sont ancrés au port, et ce rocher, cette montagne qu'il a réussi faire se déverser dans la mer, détruit plusieurs navires. Bref, Ulysse part en catastrophe, mais il échappe donc à la colère de Polyphème. Alors ensuite, Ulysse, il arrive chez Éole, dans une île, une autre île, Éole, Éole, dieu du vent. Et là, donc, Éole, gentiment, offre un sac qui renferme tous les vents contraires, parce qu'à l'époque, on ne naviguait qu'avec le vent, bien sûr. Et Éole confie le sac où il y a tous les mauvais vents, les vents contraires, donc il le confie à Ulysse, et comme ça, Ulysse peut profiter du bon vent qui n'est pas enfermé pour quitter le port. Mais voilà que Ulysse s'endort, et les soldats ouvrent le sac, parce qu'ils croyaient qu'il y avait des choses dedans, des choses utiles. Le sac est ouvert et les mauvais vents sortent. Et les mauvais vents viennent maintenant à l'œuvre pour ramener Ulysse à son île initiale. Donc le cadeau d'Éole était un cadeau. Mais là, c'est Ulysse qui s'est endormi, qui est puni en quelque sorte. Ulysse a été léger, il s'est endormi, il ne fallait surtout pas qu'il s'endorme. Bref, ensuite on arrive au pays des Lestrigons. Les Lestrigons, c'est encore une île sinistre avec des géants cruels qui tombent sur les navires d'Ulysse et qui les détruisent. Alors il y a un autre exemple intéressant, c'est l'île de Circé. Alors Circé, c'est une magicienne, et là curieusement les soldats d'Ulysse sont tous surpris de voir des loups, des cochons très gentils qui viennent leur lécher les jambes et qui ont l'air très gentils. Bon, c'est la magie de Circé qui a opéré. Quelle magie? Eh bien oui, parce que Ulysse finit par comprendre que ce sont des hommes et des femmes qui sont incorporés dans les cochons et qui sont prisonniers dans des formes animales. Alors Ulysse va prier Apollon et Hermès va donner une herbe particulière à Ulysse pour qu'il ne soit pas, lui et ses amis, ne soient pas transformés en cochons. Et puis même Ulysse va obtenir que Circé libère ces hommes enfermés dans des bêtes, des loups ou des cochons, et donc il va restaurer l'humanité, le statut d'humain et à ces bêtes qui étaient enfermées depuis un certain temps. Circé, la magicienne, après Circé lui demande d'aller aux enfers. Pourquoi? Parce que aux enfers, chez Hadès, dieu Hadès, il y a un devin, Tirésias, qui dit tout ce qui va se passer après, dans le futur, donc Ulysse va aux enfers. Et il écoute Tirésias qui lui dit que, bon, il aurait pu le savoir, qu'il y a encore plein d'embûches sur son parcours. Et donc Tirésias lui dit la vérité, il y a plein d'embûches pour retourner dans son île d'Ithaque. Donc Ulysse finit par sortir des enfers pour retrouver ses bateaux, ses navires. Et il va revoguer vers Ithaque. Toujours, il veut absolument rentrer dans son pays d'Ithaque. Mais là, c'est les sirènes qui vont lui chanter toutes sortes de chansons et le fasciner, donc des chants qui entraînent les marins, les navires sur des récifs, dans des sirènes donc fallacieuses et qui embobinent les soldats. Alors, Ulysse veut savoir comment ça marche, qu'est-ce que c'est que ce chant. Il se fait attacher au mât de son bateau et il poursuit sa route pour écouter ce chant des sirènes. Il veut savoir et il veut voir, il veut connaître, il veut comprendre. Mais bon, il a bouché les oreilles de ses soldats pour pas qu'ils se laissent piéger, mais lui-même s'est laissé les oreilles ouvertes, mais attaché, et il a demandé à ses soldats de ne pas le détacher pour passer ce fameux cap de l'île des sirènes. Donc il passe, il franchit ce piège des sirènes, et donc échappe au récif qui était là, tout prêt pour faire se fracasser les navires. Alors ensuite, c'est pas fini, parce que, comme disait Tirésias, il y a encore plein de malheurs qui attendent Ulysse. C'est les Planctes. Alors les Planctes, c'est une île assez sinistre où il y a Charybde et Scylla. Vous savez, en français, on dit deux Charybdes dans Scylla. Et oui, Charybde et Scylla, ce sont deux magiciennes, deux divinités, mais sinistres, des femmes sinistres, qui, l'une, c'est qui déclenche des tourbillons, avec l'aide de Poséidon, sans doute. Donc c'est Charybde qui est la bouche ouverte et qui avale en quelque sorte dans ses flots tous les navires qui se passent trop près de chez elle. Donc c'est le tourbillon des flots. Et puis quand on arrive à passer à côté, comme c'est le cas de Ulysse, eh bien c'est pour rencontrer Scylla. C'est pas beaucoup mieux parce que Scylla est une monstruosité féminine avec six têtes. Ulysse passe trop près et six de ses marins, chaque tête va avaler un marin. Donc c'est pas beaucoup mieux. Scylla, c'est pas beaucoup mieux que Charybde. Alors ensuite, Ulysse, il lui reste quelques marins encore, mais pas beaucoup, 4 ou 5. Il va aller dans l'île d'Hélios, Hélios le soleil. Et là, il y a des vaches sacrées qu'il faut surtout respecter parce que Hélios est exigeant, il a ses vaches dans son territoire. Et Ulysse recommande bien à ses marins de faire la diète en quelque sorte, mais au bout de quelques jours, les marins ont faim et ils tuent quelques-unes de ces vaches pour les rôtir et pour les manger. Eh bien oui, mais c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire. Et Ulysse était trop loin, est-ce qu'il dormait ou est-ce qu'il était pas assez précis, pas assez rude pour empêcher ses marins de manger ses vaches. Bref, Hélios n'est pas content du tout et il va envoyer, avec l'aide d'Apollon, encore une fois une tempête pour sur la pauvre armée restante d'Ulysse, qui reste plus grand-chose. Alors ensuite, on arrive à Calypso. Et là, c'est une autre divinité, Calypso, une très très belle femme, qui essaye, comme Murèse Circé, qui essaye d'envoûter Ulysse, de le retenir. Et Ulysse va effectivement devoir rester comme esclave. Aujourd'hui, on dirait esclave sexuel, enfin, plus ou moins. Esclave de Calypso, Ulysse va rester 7 ans sur l'île de Calypso, prisonnier donc de Calypso. Mais au bout de 7 ans, il va arriver à Athéna, qui est invoquée, Athéna, la déesse de la sagesse et déesse de la guerre en même temps, comme on l'a dit. Athéna va permettre à Ulysse de repartir, mais comme Poséidon est furieux, lui aussi, Poséidon, c'était le père de Polyphème. Poséidon, c'est le roi des océans, c'est le dieu des océans. Polyphème, c'était son fils. Polyphème supplie son père Poséidon de punir Ulysse. Alors Poséidon, chaque fois qu'il le peut, lance une tempête et il faut toute la prière d'Ulysse auprès d'Apollon, auprès de Jupiter, auprès d'Athéna, pour calmer, pour empêcher la tempête d'emmener les bateaux d'Ulysse. Alors Athéna va aider Ulysse quand même parce que dans la tempête il a tout perdu, mais il reste une poutre et sur laquelle Ulysse va essayer de s'échapper, et puis finalement Athéna va lui donner de quoi construire un radeau. Et donc c'est avec un radeau que finalement Ulysse atteint, mais seul cette fois-ci, il a perdu tous ses soldats, seul l'île des Phaéciens. Dans cette île des Phaéciens, il y a heureusement, c'est nouveau, un roi et une reine qui sont très gentils. Alcinous, et puis la femme, elle s'appelle je ne sais plus comment, il y a en tout cas un roi très gentil, il y a une fille ravissante, Nausicaa, c'est la fille d'Alcinous, et qui va présenter donc Ulysse, son île, à son père, et son père qui lui offre la main de sa fille, Nausicaa. C'est très gentil, mais Ulysse résiste. C'est important, on va voir dans les mérites d'Ulysse après, qui est Ulysse résiste encore au piège de cette charmante créature, Nausicaa, et il veut retourner à tout prix dans son île, et finalement, il va pouvoir, depuis cette île des Phaéciens, retourner jusqu'à son île d'Ithaque. Et donc là, il va retrouver Pénélope. Mais, comme il y a 20 ans qu'il a quitté Ithaque, 10 ans l'Iliade, 10 ans l'Odyssée, ça fait 20 ans, et c'est le chien, le vieux chien d'Ulysse, Argos, qui reconnaît le premier, son patron, Ulysse. Et puis ensuite, Ulysse se déguise en mendiant, mais il y a une nounou, l'ancienne nurse, la servante, on va dire, de Ulysse. Elle le reconnaît à une cicatrice qu'il avait au talon. Donc, il y a deux personnages qui reconnaissent Ulysse, c'est le chien et c'est la nourrice. Alors, Ulysse, lui, veut reconquérir sa femme, Pénélope. Et pour le reconquérir, eh bien, comment faire? Alors, il se déguise en mendiant. Ce qu'il y a un grand danger, c'est que Pénélope a été investie par des prétendants. Elle a été, en fait, envahie sur toute l'île d'Ithaque, a été envahie par les prétendants de Pénélope. Pénélope, c'était la reine d'Ithaque. Et bien sûr, les prétendants admirent la beauté de Pénélope, la sagesse de Pénélope, les richesses de cette île, et voulaient donc épouser Pénélope. Voilà, il y avait beaucoup, paraît-il, une cinquantaine, enfin bon. Donc, Ulysse veut se faire reconnaître. Il se déguise en mendiant. Et là, il assiste à une joute, dans la mesure où Pénélope, qui pendant ce temps-là n'avait eu de cesse de faire de réaliser une tapisserie et de la défaire toutes les nuits, elle avait promis à ses prétendants que quand elle aurait fini sa tapisserie, elle choisirait son roi parmi les prétendants. Alors tous les prétendants étaient là, mais ils menaient grande vie avec tous les vivres et les richesses de l'île d'Ithaque, et Pénélope ne pouvait rien faire contre ses prétendants, sinon leur promettre qu'un jour elle choisirait. Elle choisirait, donc ça y est, sa tapisserie est presque terminée, et elle propose à ses prétendants une joute, et elle les met au défi de traverser 12 anneaux avec leurs arcs, 12 anneaux, et aucun prétendant ne réussit, et le mendiant arrive, lui, et il a son arc, hein, c'est l'arc, le fameux arc d'Ulysse, il a son arc, il l'avait caché quelque part, et lui, pour lui, pas de problème, il traverse les 12 anneaux, et il réussit à passer ses anneaux, donc ce qui stupéfie bien sûr la reine Pénélope, mais qui n'est pas encore conquise parce que les prétendants sont encore là. Et donc Ulysse va tuer tous les prétendants avec son fameux arc et ses flèches. Il va tuer tous les prétendants et donc les éliminer et se faire reconnaître ensuite par Pénélope. Mais comment est-ce qu'il se fait reconnaître? Alors d'abord il a réussi le tir à l'arc, et puis il y a un autre élément. Oui, il y avait son lit, c'est ça, il y avait le lit de Pénélope et de Ulysse, c'était... Oui, le lit nuptial.
Le lit nuptial, mais en fait, c'était un lit qui avait été taillé dans un olivier qu'on ne pouvait pas transporter.
Voilà, voilà, alors...
Ulysse a dit, non, mais on ne peut pas le transporter.
Voilà, Ulysse lui a dit, et Pénélope a compris que Ulysse savait. Et donc, Pénélope reconnaît à son mari, et ça y est, l'Odyssée est terminée, et finalement... Ulysse a récupéré son île et va faire régner l'ordre, le cosmos. Là, c'est là où on peut tirer maintenant les enseignements de cette épopée, c'est qu'on a des héros qui ne sont pas là. Même si l'histoire est complexe, il y a quand même un thème fondamental, c'est la sagesse d'Ulysse. C'est la sagesse parce qu'il a réussi à échapper à tous les pièges qui lui étaient tentés, la fascination. Non, il n'a pas réussi, il s'est endormi deux fois, et deux fois il s'est fait louser en quelque sorte, il s'est fait piéger. Parce qu'il s'est endormi avec Éole, dans l'île d'Éole, il a laissé le sac être ouvert par les soldats, par les marins. Et puis avec Circé, je ne sais plus où, il avait manqué de vigilance. Bref, Ulysse n'est pas le champion de toute catégorie, mais enfin, il a échappé aux principaux pièges. Il a résisté aux sirènes, il a résisté à la faim, il a usé de stratagèmes contre Polyphème. Donc il est à la fois très sage, très vigilant, sauf ses épisodes de sommeil, mais très courageux bien sûr, il avait été le stratège de la victoire de la ville de Troie, contre la ville de Troie. Il est courageux, il est un athlète, il a gagné le concours à l'arc à travers les 12 anneaux, il était très rusé, très prudent, et donc c'est la sagesse qu'il a mise en œuvre par Homère, en quelque sorte, qui laisse surgir, qui laisse sous-jacent ces mérites de Ulysse. Alors ça, c'est pour Ulysse, qui avait renoncé au départ à son attachement pour Pénélope, pour venir aider Ménélas, aider les Grecs à conquérir la ville de Troie. Donc c'est vraiment, Ulysse est un exemple de courage et de vertu. Et il y a Pénélope qui est la reine d'Ithaque, mais qui est vraiment d'une fidélité complète envers son mari, Ulysse, et Pénélope tisse sa toile tous les jours, mais elle la détricote chaque nuit, et pour montrer aux prétendants que sa toile n'est pas finie, et qu'il faut qu'ils attendent, qu'elle n'a pas encore choisi, qu'elle choisira quand sa tapisserie sera terminée. Donc Pénélope, c'est à la fois la sagesse, la fidélité, et puis en même temps la ruse, en quelque sorte. Et puis, il y a les dieux dans cette histoire. Qu'est-ce qu'ils tiennent? Eh bien, les dieux, c'est l'ordre Zeus, Jupiter-Zeus, c'est l'ordre établi, c'est le cosmos. Et Jupiter-Zeus, bien qu'il commande à Athéna, et puis à Poséidon, il est quand même obligé de tenir compte des folies des Grecs. Il a déclenché une tempête au départ de la ville de Troie, quand la ville de Troie a été conquise. Il n'a pas pu s'empêcher de laisser Poséidon créer une tempête pour punir les Grecs qui avaient saccagé la ville de Troie. Et les Grecs continuent chez les Cicones. Bref, ces soldats grecs, à l'époque, ne méritaient que la mort, et ils sont tous morts, sauf Ulysse, qui est rentré sur un radeau grâce à l'aide d'Athéna. Donc les dieux sont à la fois l'ordre établi, Athéna est La sagesse est une guerrière en même temps, et elle est attachée à la Grèce. Si Athènes s'appelle Athènes, c'est pas pour rien, c'est parce que Athéna, c'est la déesse de la Grèce, Athéna Minerve. Et puis, les autres dieux, eh bien, il y a Hadès, c'est le dieu des morts, mais là, c'est l'ordre, c'est le cosmos. Et donc, le retour du livre, c'est le retour de l'ordre. Et là, on retrouve d'autres mythes. On retrouve le mythe de Gilgamesh. Parce que Ulysse a accepté, là, de combattre, d'une part, et puis de refuser l'immortalité, le plaisir, la jouissance que lui offrait Circé, d'une part, et puis Calypso, d'autre part. Eh bien, ces deux fois où ces magiciennes, ces déesses, offraient à Ulysse la jouissance, l'éternité, la beauté éternelle, eh bien, Ulysse refuse et il s'interdit de rester piégé par la beauté de ces nymphes, de ces divinités, idem avec les sirènes. Il refuse d'accepter la fascination des sirènes. Voilà, Ulysse donc échappe à ces pièges et c'est donc vraiment un grand défenseur d'un cosmos qui va calmer tous ces combattants. Il ne reste plus de combattants grecs, alors il n'y a plus qu'Ulysse qui est là, qui est revenu sur Ithaque. Mais voilà, c'est la fin de cette épopée qui donne des enseignements très complets sur la sagesse. Comme Gilgamesh aussi accepte de ne pas être éternel, il accepte la mortalité, il accepte l'humanité. Il accepte, Gilgamesh, comme Ulysse, le fait d'être un homme, de vivre jusqu'à sa mort dans une maîtrise du cosmos qui va faire régner sur la ville d'Ithaque. Gilgamesh était sur son peuple, au sud de l'Irak. Et voilà, ça rappelle d'autres mythes. Et puis les 12 travaux d'Hercule, c'est encore une fois 12 étapes, là, qui sont les 12 pièges qui sont tendus à Ulysse pour rentrer. Toutes ces épopées ne sont pas faites comme ça par hasard, ce sont des aventures, des guerres, des combats. Mais Polyphème représente peut-être cette race de géants qui a peut-être régné sur la Terre autrefois, il y a très 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 longtemps, dans les races précédentes. Donc, merci pour ce rapide coup d'œil sur l'Iliade et l'Odyssée.